Sud Radio, l'œil de l'expert.
L'œil de l'expert, aujourd'hui Jean-Pierre Bouchard, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue et criminologue, spécialiste des agresseurs et des victimes. Je voulais vous avoir ce matin pour parler de ce sujet qu'on a abordé déjà depuis plusieurs jours à propos de l'irresponsabilité pénale et de ce que c'est que d'être fou. Qu'est-ce qu'être fou? Qu'est-ce qu'un fou? Qu'est-ce qu'une unité pour malade dangereux? Qu'est-ce que c'est un fou, Philippe, Jean-Pierre Bouchard?
Alors un fou pour le sens commun, c'est un mot un peu valise. Pour nous, les cliniciens, ça correspond à des choses précises, puisque vous savez que les troubles mentaux, comme les troubles du comportement et les maladies mentales, le sont classés. En gros, ce qu'on peut appeler le plus la folie, maintenant, ça correspond à ce qu'on appelle cliniquement les psychoses, avec un type de ces maladies mentales lourdes qui est la schizophrénie, où les gens délirent, peuvent être hallucinés visuellement, peuvent être hallucinés auditivement, encore plus couramment, c'est-à-dire ils entendent des voix, des choses comme ça. Donc ils sont très coupés de la réalité et très perturbés dans leur fonctionnement mental, comme à nous, le sens commun. Il peut y avoir aussi des gens qui ont des traits beaucoup plus paranoïaques, au point de délirer énormément, et là ils sont diagnostiqués par les psys comme paranoïaques. Donc ce sont des formes de délire où, contrairement au délire antérieur que j'évoquais concernant les schizophrènes, il n'y a plus ces hallucinations. Mais par contre, il y a un trouble grave fait essentiellement d'interprétation de la réalité, où les gens interprètent de travers les choses en permanence, et souvent ils développent des délires et des délires de persécution, mais on retrouve pas cette impression de grande bizarrerie ou de folie beaucoup plus apparente que chez les schizophrènes. Mais ça peut aussi donner des gens donc qui sont extrêmement perturbés, qui peuvent passer à l'acte d'ailleurs quelquefois comme les schizophrènes. Oui. Il faut savoir que les ce qu'on appelle les fous et la folie en général, ça peut bien sûr générer des troubles du comportement, et dans ces troubles du comportement, de façon mineure, de temps en temps, il peut y avoir des troubles liés à la violence ou aux agressions, mais il ne faut pas systématiquement relier la folie à la violence et aux agressions, mais ça peut arriver de façon minoritaire.
Vous comprenez qu'on ne comprenne pas justement dans l'affaire Halimi, alors je ne vais pas vous demander de vous prononcer sur ce cas évidemment, mais qu'on ait du mal à comprendre, c'est la question qui se pose, c'est-à-dire qu'on reconnaisse l'antisémitisme et qu'on le déclare irresponsable. Hier, votre confrère Roland Coutanceau expliquait que lui n'avait pas décelé d'antisémitisme chez l'individu qui a tué Sarah Halimi.
Alors attention, parce que si on parle d'expertise mentale, qu'elle soit psychiatrique ou psychologique, dans un contexte judiciaire, c'est-à-dire quand on est missionné par des juges, pour déterminer l'état mental de la personne, on nous demande de le faire au moment des faits. Alors qu'au moment de l'expertise, ça peut être quelquefois, quelques jours après, quelques semaines après, quelques mois après, et le sujet peut avoir changé. Donc c'est vraiment son état au moment des faits.
Comment on fait quand c'est,
alors, c'est pas toujours
plusieurs
facile,
années
et
après
Alors c'est pas plusieurs années, en général c'est quelques mois, puisque vous savez qu'il y a plusieurs sorte d'expertise, mais je dirais en la matière la plus importante, c'est ce qu'on appelle les expertises présententielles, avant la sentence, avant le procès. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type d'expertise est systématique en matière criminelle, donc quand les gens ont commis des crimes, et vous savez que le crime le plus souvent commis, c'est pas l'homicide, mais le viol, ou le plus souvent jugé, bien sûr en matière d'homicide et pour toute la chaîne pénale criminelle. Et puis, c'est exceptionnel les expertises en matière délinquantielle, en matière de délit. Donc, pour en revenir à notre affaire, si vous voulez, l'expert, qu'il soit psychiatre ou psychologue, il est interrogé pour établir l'état mental de la victime au moment des faits. Donc, c'est l'état mental qui doit primer, pour dire si la personne est, selon l'expert, irresponsable ou responsable psychiquement des faits criminels qui lui sont reprochés, en quelque sorte, et pour lesquels il est poursuivi. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'expert n'est qu'un auxiliaire de justice. Il n'a pas force de loi. Il émet un avis pour éclairer les magistrats. Et les magistrats ne sont pas du tout liés à l'avis des experts. Maintenant, il est normal, puisque les magistrats sont juristes de formation, qui suivent l'avis de ces experts.
Oui, globalement, dans l'ensemble, ils suivent quand même l'avis des experts.
Oui, bien sûr, et c'est assez logique. Simplement, alors moi je ne veux pas entrer dans les polémiques, mais il est notoirement connu que l'expertise, on va dire mentale, n'est pas une science exacte, qu'il y a régulièrement des querelles d'experts à propos des mêmes sujets. Hein. L'affaire Halimi, c'est pas du tout une première, non. C'est au contraire récurrent. Et on en connaît un peu les origines. C'est que d'abord, les experts se prononcent par rapport à un texte pénal. Alors vous savez que l'irresponsabilité pénale des malades mentaux, en gros, c'est un très vieux principe qui date du code pénal napoléonien, puisque ça a été institué en 1810. Ce principe a été un peu rénové et toiletté avec notre nouveau code pénal de 1994, mais en gros, c'est les mêmes principes. Et le premier alinéa de l'article qui régit ça, alors ça c'est un peu technique, mais c'est très important parce que l'affaire Halimi et d'autres, c'est sur ça que reposaient donc les divergences de points de vue. Donc ce premier alinéa de l'article 121 dit que la personne qui présentait des troubles psychiques ou neuropsychique au moment des faits criminels, donc qui ont aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, donc est irresponsable sur le plan pénal. Mmh. Si ces mêmes troubles psychiques constatés ont simplement altéré le discernement ou entravé le contrôle des actes, eh bien la personne demeure responsable. Et c'est là où il y a souvent la polémique, parce que des experts différents vont conclure différemment. Pourquoi ? Parce que la notion d'abolition du discernement ou d'altération du discernement n'est absolument pas définie. Donc chacun a une latitude pour conclure de façon un peu personnelle, quelquefois. C'est la même chose par rapport au contrôle des actes. Oui. Donc si vous voulez, ça c'est une première chose. Ensuite, les experts peuvent avoir des profils de formation ou d'expérience professionnelle assez différents. Ils peuvent les faire émettre donc des avis assez différents.
Enfin, là, il y en avait 6 qui étaient d'accord, qui sont arrivés à la même conclusion. Quand vous dites la psychiatrie.
Alors après, pour l'antisémitisme, c'est important. Oui. L'antisémitisme n'est pas une maladie mentale, c'est simplement une opinion et un délit, hein, voire un crime quelquefois. Oui. Il ne faut pas du tout l'assimiler à ça. Donc c'est vrai que là il y a un vrai hiatus.
Il y a un hiatus. Vous dites la psychiatrie n'est pas une science exacte. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de choses factuelles et concrètes qui permettent d'aboutir à l'absence de discernement ou non.
Oui. Alors si vous voulez, cette histoire de discernement, c'est très compliqué. Moi, je suis pour une réforme de l'article 129 du code pénal qui est vraiment mal ficelé.
C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit plus clair ?
Si vous voulez, moi, j'ai vu un très grand nombre d'agresseurs dans ma carrière, et d'agresseurs pathologiques, par exemple, et j'en ai vu beaucoup qui avaient commis des vrais homicides pathologiques, mais qui avaient été capables de très bien organiser le mode opératoire avant, de repérer leur victime, de la cibler, de faire tout ce qu'il fallait pour être efficace, pour la tuer, la torturer, etc. Et pourtant, il présentait des troubles mentaux lourds. Donc, il faut beaucoup plus recentrer le texte sur l'existence de troubles mentaux lourds au moment des faits, plutôt que sur le contrôle des actes et des choses comme ça qui sont très secondaires, parce que vous avez des cas de figure extrêmement différents. Alors, pour amener un peu de raison à tout ça, est-ce que vous avez une idée de la proportion de responsables pénaux ou d'irresponsables pénaux ?
Non.
C'est pas du tout 50-50. Hein. Si on prend à peu près à la louche, c'est moins de 1% qui sont considérés comme irresponsables pénaux. Donc vous voyez que c'est quand même très très peu de gens. Très très peu de gens, mais ça existe évidemment, et c'est un très vieux principe, et donc cette possibilité existe, mais ce débat psychiatrique avec ces querelles d'experts, c'est assez récurrent. Ça, c'est pas une exception.
C'est récurrent, mais 1%, oui, c'est assez peu.
Moins de 1%.
Qu'est-ce que c'est qu'une UMD, qu'une unité pour malades dangereux ? Alors, parce qu'on a l'impression, si on prend le cas de l'affaire Halimi, qu'il va aller dans une sorte d'hôpital. Enfin, là, il est en hôpital psychiatrique, mais que c'est finalement beaucoup moins dur que la prison. Est-ce que c'est le cas ?
Alors, si vous voulez, quand les gens sont reconnus malades mentaux au moment des faits, au point d'être irresponsabilisés, il n'est pas question de les relâcher comme ça dans la rue, à la fin de l'audience, ou quand l'instruction est clôturée. Ils sont placés dans des structures sanitaires, donc qui relèvent de la psychiatrie, dans des services de psychiatrie qui sont sécurisés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller venir facilement, ils ne peuvent pas sortir comme ça. Et ces services sécurisés, là aussi, le premier est très ancien. Il a été créé Donc en 1810 aussi, en 1910, en région parisienne. Il y en a un autre qui a été créé en 1947 dans la région d'Avignon. Encore un autre dans les années 50 dans le nord-est de la France et dans le sud-est de la France. Ça a été longtemps l'unité pour maladies difficiles la plus jeune. Était dans la région de Bordeaux. Elle a été créée en 63. Et maintenant, il y en a 5 nouvelles qui se sont rajoutées, qui sont toutes petites depuis 2011-2012. Et ces unités, donc, accueillent des gens qui présentent des troubles mentaux plutôt sévères, donc les fameuses psychoses dont je parlais, qui sont très majoritaires, mais il peut y avoir d'autres troubles mentaux. Et là, on y trouve les fameux irresponsables pénaux, qui ne sont d'ailleurs pas du tout majoritaires, mais ils sont toujours très présents, donc qui ont commis des infractions graves et qui ont été irresponsabilisés au titre de ce fameux article 121 du Code pénal. Mais il y a aussi certains détenus qui présentent des troubles mentaux, bien que maintenant il y ait de nouvelles structures aussi qui leur soient réservées. Et puis il y a aussi d'autres types de personnes qui ont pu être dangereux dans leur service de psychiatrie classique et qui y sont placées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, c'est un très vieux principe en France, plutôt bien fait, où les gens qui souffrent de troubles mentaux, qui n'ont pas forcément commis des violences graves, mais qui pourraient en commettre, qui pourraient être dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui, en gros, on peut prévenir ça et prendre ce genre de décision de placement de façon à éviter à ce qu'ils passent à l'acte. Ouais. Donc il y a des gens à la fois qui sont passés à l'acte et des gens qui auraient pu passer à l'acte. Ils sont placés dans ces fameuses unités pour maladies difficiles.
Très bien. Bah, écoutez, merci de nous avoir éclairé ce matin sur ce sujet. Merci Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue. Bonne journée à vous, spécialiste des agresseurs et des victimes. Nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.